nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Raymond Boudon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission Focus. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons nous attacher à quatre faits marquants de votre vie ou quatre moments clés sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Alors, avant de commencer, rappelons que vous êtes l'un des sociologues français contemporains avec Pierre Bourdieu et Edgar Morin, entre autres, à avoir une renommée internationale. Vous êtes entré à l'Académie des sciences morales et politiques en 1990, dans la section philosophie, avant de basculer dans la section sociologie en 1999. Alors, nous allons vous découvrir tout au long de la semaine. Et pour ce premier volet, nous allons évoquer avec vous votre année universitaire à New York en 1963. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à prendre un avion pour faire une année d'études aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous séduisait tant là-bas?
Je dois dire que c'est pas une décision purement personnelle. C'est Raymond Aron, avec qui j'avais fait mon diplôme d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures sur Hegel à Berlin. Il l'avait accepté, mais enfin, je suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup apprécié. Moi non plus, je suis pas sûr que je me sois pas un petit peu ennuyé à l'écrire. Et je dois dire que je me cherchais un tout petit peu. J'ai été voir Aron en lui disant, est-ce que je dois devenir économiste? Est-ce que je dois devenir sociologue? Il m'a dit sociologue. Ben, pourquoi? Ben, parce que l'économie existe déjà. On a besoin de personnes. Elle est sur rail. Tandis que la sociologie, tout est à faire. Enfin, j'ai dit, bon, mais... comment voyez-vous le démarrage? Et c'est là qu'il m'a dit, bah, écoutez, il faut que vous alliez aux États-Unis. J'ai dit, mais aller aux États-Unis, c'est très bien, mais comment? Et il dit, je vais vous obtenir une bourse. Et le lendemain, ou le surlendemain, ou à peu près, j'avais effectivement une bourse.
La bourse de la Fondation Ford.
Bourse de la Fondation Ford, exactement. Exactement.
Avant d'aller aux États-Unis, vous êtes passé un peu en Allemagne.
Oui, c'est ça. J'avais eu une bourse en Allemagne en 56, où là j'étais complètement philosophe. Je voulais surtout apprendre l'allemand, en réalité. Mais j'ai eu la chance de tomber sur le cours de Heidegger, puisque c'était, là je dis la chance parce que c'était la seule année où il a enseigné. En fait, il a enseigné seulement 2 ans. Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été dénazifié, interdit d'enseignement. Et puis, il a enseigné 2 ans à l'Université de Fribourg, et ensuite, il a été atteint par l'âge de la retraite. J'avais donc eu cette expérience assez extraordinaire. Non pas que j'ai beaucoup d'admiration pour Heidegger, mais c'était, en tant que spectacle, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas.
Donc, on revient aux États-Unis.
On revient aux États-Unis.
Vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui vous séduisait là-bas? Il y avait des professeurs qui vous intéressaient plus que d'autres?
Oui, une personne. Alors ça, c'est tout à fait indépendant d'Aron. Comme j'étais à l'école normale supérieure, que je me cherchais, comme je vous le disais, un certain jour, je me suis promené sur les étagères de la bibliothèque en sociologie, et je suis tombé sur un livre qui s'intitulait « Le langage de la recherche sociale »,« The Language of Social Research ». J'ai commencé à le feuilleter, et puis je me suis aperçu dès les premières pages que l'auteur avait une ambition scientifique, disons, pour la sociologie. Ça m'a immédiatement séduit. Alors cet auteur s'appelait Paul Lazarsfeld. Il se trouve que il était autrichien, il avait de la famille en France, et qu'un de mes camarades de l'école normale, un mathématicien, était son neveu. Par conséquent, je n'ai pas eu une seule hésitation. Aron m'a donné cette bourse, ou m'a fait avoir cette bourse, exactement. Là, il fallait savoir, évidemment, où aller. Et je suis allé à Columbia, à l'Université de Columbia, parce que c'est là que Paul Lazarsfeld enseignait.
Et alors, Paul Lazarsfeld, vous l'avez rencontré, il est devenu votre...
Oui, il est devenu un maître, il a été tout de suite un maître, et un ami assez rapidement. C'était un personnage assez fascinant. D'abord, il était multiculturel dans l'âme, puisqu'il était autrichien, c'était un juif autrichien qui avait émigré aux États-Unis en 1933, pas pour des raisons indépendantes de la politique, mais ensuite il y est resté pour des raisons dépendantes de la politique, bien entendu, et il est devenu un phare de la sociologie parce qu'il était scientifique de formation. Il avait commencé par une thèse sur la théorie de la relativité. Et puis il est né à Vienne, à l'époque où Vienne était un petit peu un centre intellectuel assez extraordinaire en Europe. Enfin, il connaissait un petit peu tout le monde à Vienne. Et puis aux États-Unis, comme il avait une grande capacité d'adaptation, en dépit de grandes difficultés d'intégration au début, enfin en raison de ses origines germaniques, disons, il est devenu quelqu'un d'extrêmement important, un des grands phares de la sociologie des années 60.
Et alors justement, vous avez entretenu des liens assez amicaux entre étudiants et professeurs. Est-ce que ça serait arrivé, par exemple, en France ?
Non, alors c'est justement une des choses qui m'a fasciné à l'université américaine, c'est que les distances entre professeurs et étudiants étaient comme abolies. Pas n'importe quel étudiant, il fallait que le professeur s'intéresse à l'étudiant. Mais à partir du moment où c'était fait, on avait l'impression de relations très directes. On pouvait voir Lazarsfeld tous les jours, si on le souhaitait, il le désirait. Et c'était pas simplement vrai de lui, c'était vrai aussi de l'autre très grand sociologue de Columbia, à l'époque qui est mort il y a très peu de temps, Robert Merton. Enfin, lui aussi, c'était considéré comme un très grand homme, quand on le respectait beaucoup. Mais on avait un accès, la porte était ouverte. C'était d'ailleurs l'usage que le bureau des professeurs ait toujours la porte ouverte.
Et Columbia, il faut savoir, était à l'époque considérée comme l'une des meilleures universités des États-Unis.
Oui, à l'époque, c'était très facile de faire une cartographie de la qualité des universités. Il y avait Columbia, il y avait Michigan et il y avait Harvard. Chacune avec, en ce qui concerne les sciences sociales, mon domaine, son style particulier. C'est-à-dire que Michigan, c'était la grosse usine à analyser des données quantitatives. Columbia, c'était quelque chose de mixte, d'ouvert un petit peu à tous les courants. Et Harvard était plus européen, plus spéculatif, si l'on veut.
Il y avait une guéguerre entre Columbia, Harvard et Michigan.
Ah oui, mais une guerre très, très saine. Enfin, plutôt de la concurrence que de... Mais c'est vrai que très normalement, les vedettes de Harvard disaient du mal de celles de Columbia et réciproquement, enfin.
À Columbia, on recherche une adéquation entre les questions qu'on pouvait se poser sur tel ou tel phénomène social et les méthodes d'observation et d'analyse permettant d'y répondre.
Exactement, je crois que c'était vraiment la caractéristique principale de Columbia. C'était un ethos, une attitude, une posture scientifique au sens banal, je dirais, du terme.
Qu'on n'avait pas à Harvard ou à Michigan.
Il y avait quelque chose de plus dogmatique à Michigan, dans la mesure où on avait une espèce de religion du quantitatif. Tandis qu'à Columbia, bon, on avait l'impression que certains sujets se traitaient mieux d'une manière, d'autres avec un autre type d'observation. Et à Harvard, comme je vous le disais, c'était plus proche de la spéculation, de la théorie, mais au sens d'une théorie un petit peu suspendue en l'air. Non. Tandis qu'à Columbia, il y avait un effort très très marqué, à la fois pour ne pas tomber dans l'empirisme, dans la description des faits sociaux purement et simplement, et d'éviter le souci parallèle, d'éviter la théorie purement spéculative. D'ailleurs que comme le biologiste ou comme le physicien, c'est l'impression que j'avais, que ces gens de Columbia, ils avaient le souci de recueillir des faits, de préférence des faits qu'on n'explique pas immédiatement, et puis de les expliquer à l'aide de théories aussi solides que possible, c'est-à-dire l'attitude normale du biologiste ou du physicien ou de l'astronome. C'est ça, je crois, qui m'avait profondément séduit à Columbia.
L'attitude scientifique.
Oui, scientifique au sens non dogmatique du terme, au sens ouvert du terme, avec ce que ça implique de méthode, de rigueur dans les procédures, mais également d'ouverture d'esprit.
Enfin, ça, vous l'avez découvert aux États-Unis, en France, vous n'aviez pas cette ouverture.
J'avais ce désir d'ouverture, mais j'avais l'impression qu'ici, en France, je n'avais pas de personnes qui correspondaient à cela exactement. Les personnalités dominantes dans les sciences sociales en France à l'époque, c'était Georges Gurvitch, qui était un personnage tout à fait intéressant, fascinant, mais enfin, qui me donnait l'impression d'être un petit peu verbeux dans ce qu'il écrivait. Enfin, il avait décidé que la société comportait 12 paliers en profondeur, et puis il en rajoutait un à chaque saison. Tout ceci me semblait un petit peu verbeux. Quant à Aron, c'était évidemment un très très grand intellectuel, mais plus un intellectuel qu'un esprit scientifique. Ceci, dans mon esprit, n'a rien de négatif. Et simplement, il y a des types d'esprits qui sont différents, et lui, c'était plutôt un journaliste extrêmement perficace à certains moments, un très grand intellectuel qui a su faire preuve de courage, mais il n'a pas laissé de théorie vraiment précise d'aucun sujet.
Et Jean Stoetzel, peut-être?
Stoetzel, oui. Alors Stoetzel était le seul, c'était le moins connu, c'était le moins vedettisé, c'était le plus jeune aussi. Stoetzel, lui, avait l'esprit colombien, c'est-à-dire la croyance aux faits et la croyance à l'idée qu'une théorie n'est valable qu'à partir du moment où elle permet de faire comprendre des faits qu'on ne comprend pas d'habitude.
Il a pratiqué donc une sociologie que l'on peut qualifier de scientifique.
Oui, c'était mon impression. Alors simplement, comme il a passé beaucoup de temps à fabriquer, à construire des institutions, ce qui était très important. Son œuvre s'en est malheureusement un petit peu ressentie, mais ce qu'il a laissé est admirable, malheureusement trop peu connu.
On revient un petit peu à Columbia.
Oui.
Vous étiez donc étudiant, mais vous n'étiez pas le seul étudiant. Avec qui avez-vous pu faire connaissance parmi tous ces étudiants qui étaient avec vous?
Oh, alors là, c'était aussi un des aspects extrêmement positifs à la fois de New York et puis en même temps de l'Université Columbia, c'était que le monde entier était là. C'est-à-dire que j'ai pris des cours un petit peu au hasard. Alors le professeur de statistique, c'était un Hongrois très fort, très connu, un émigré hongrois qui parlait l'anglais avec un accent épouvantable, ce qui fait qu'un Français comprenait très bien. Lazarfeld lui-même n'a jamais su prononcer le TH et le W. Enfin, il a toujours parlé l'anglais comme Henry Kissinger. Bon, alors il y avait ce côté extrêmement cosmopolite, des gens qui venaient d'absolument partout. Et ça, c'était également un côté extrêmement séduisant.
Parmi les étudiants, il y avait Anand Selvin.
Oui, Anand Selvin qui a été l'homme responsable de la réimportation du plus grand des sociologues français, Durkheim, en France. Il a lu avec un microscope, la plume à la main, les travaux de Durkheim. Et Durkheim, dans les années 60, en France, était tombé à peu près dans l'oubli. C'était très difficile de trouver un livre de Durkheim.
Ah oui, alors qu'actuellement, dans les universités, on fait toujours référence à Durkheim.
Absolument. Maintenant, on a reconnu, il a sa vraie place. Il est avec Tocqueville, l'un des deux très, très grands, très, très grandes figures de la sociologie française. Mais c'est en partie grâce aux Américains, notamment grâce à Anand Selvin et à un article où il avait épluché le suicide de Durkheim et montré qu'il y avait chez Durkheim, qui ne savait pas de statistiques au sens propre du terme, mais il y avait une espèce de virtuosité statistique invraisemblable dans l'analyse des statistiques de suicide. Et alors, à partir de ce moment-là, Durkheim est réapparu sur la scène française à travers le suicide. Essentiellement. Ça serait très amusant d'ailleurs si on regarde les publications françaises du début de cette période-là, c'est à peu près toujours sur le suicide. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on redécouvrira les autres livres de Durkheim.
Vous faisiez aussi également référence dans votre livre, Y a-t-il encore une sociologie? Vous faisiez également référence à Anthony Oberschall.
Anthony Oberschall, qui est un très bon ami, qui reste un très bon ami, qu'on voit de temps en temps passer en France, qui est tchèque d'origine, mais qui a enseigné toute sa vie, ou à peu près, aux États-Unis. À Pittsburgh, et je dois dire que je me suis toujours senti très proche de lui, parce qu'on avait quand même, on était très heureux aux États-Unis quand on rencontrait un Européen, parce qu'il y a une chaleur humaine.
Vous vous retrouvez comme ça entre Européens.
Oui, il y a un style des relations sociales tout de même relativement froid des Américains.
New York peut-être aussi peut-être très différent des autres villes américaines.
Puis New York est très différent des autres villes. Mais j'ai très vite sympathisé avec Oberschall, et Oberschall, je me suis senti intellectuellement très proche de lui, et il est l'auteur d'un livre classique de sociologie sur les mouvements noir américain, et il a admirablement expliqué pourquoi au sud des États-Unis, les mouvements noirs ne se sont jamais accompagnés de violence, tandis qu'au nord, au contraire, ils sont toujours, les Black Panthers, etc., ils sont toujours accompagnés de violence. Alors c'est un exemple d'énigme sociologique. Pourquoi cette différence entre le nord et le sud?
Ne pas s'arrêter au constat, essayer de
pas s'arrêter au constat, essayer d'expliquer. Et expliquer, alors c'est là où je me sens en profond accord avec Oberschall, expliquer en descendant descendant jusqu'à ce que les individus ont dans la tête. Et Obergefell a très bien expliqué que Martin Luther King avait besoin dans le Sud de l'appui des églises protestantes américaines, qui sont beaucoup plus présentes dans la vie américaine de tous les jours dans le Sud. Il a très bien compris qu'il avait besoin de cet appui des églises protestantes s'il voulait défendre les Noirs, et qu'il y avait une condition nécessaire pour avoir cet appui, c'est de ne pas recourir à la violence. D'où la stratégie de non-violence, qui n'est pas du tout une imitation de Gandhi ou je ne sais quoi, mais vraiment un calcul politique très, très juste, et qui a très bien marché. Alors Obergefell montre ça très bien.
Et enfin Terry Clarke.
Terry Clarke a l'avantage de parler très bien le français, d'être très francophile, d'avoir séjourné assez souvent en France, d'être très compétent dans le domaine de l'histoire de la sociologie. Il a écrit un très beau petit livre sur l'historique, disons, de la première sociologie française, des Durkheimiens, des tensions, de la difficulté qu'ils ont eu à s'imposer, etc. C'est un petit livre qui est considéré comme par les historiens des sciences sociales français comme une sorte de classique. Alors, à part ça, Terry Clarke s'occupe également de toutes sortes de choses. Il s'est, depuis des années, occupé essentiellement d'un tout autre sujet, essentiellement de l'administration des villes, avec la question derrière la tête, qu'est-ce que c'est qu'un bon maire ? Comment ça marche?
Merci Raymond Boudon. On se quitte déjà, mais on se retrouve demain pour évoquer avec vous justement l'année 68 comme point de départ de dégradation du système éducatif. Thank you.